Parole d'auteur. Une émission de Monique Fauché.
Une nuit, une longue nuit en suspens, hors du temps, dans la pâle lumière qui nimbe la chambre d'un hôpital, un homme s'éteint doucement et près de lui deux femmes face au mystère de la mort. L'homme qui meurt était un homme passionné, au passé dense, chargé d'événements, de chagrins, mais aussi d'amour et d'émerveillement. Cet homme est le père de l'auteur Léonore de Recondo, qui tresse souvenirs et sentiments entre trois personnes reliées par le fil ténu de la musique et de l'écriture. Ceci dans un ouvrage intitulé Manifesto, édité par Sabine Vespizer, et je suis heureuse d'accueillir son auteur, Léonore de Recondo. Oui, bonjour Léonore de Recondo.
Bonjour.
Oui, c'est Sabine Vespizer.
Vespizer.
Voilà, oui, je me disais. Voilà, alors, musicienne d'abord, dès l'âge de 5 ans jouant du violon et devenue grande interprète, travaillant avec les plus grands maîtres dans de prestigieux ensembles, surtout baroques. Vous avez été lauréate de concours international de musique baroque aux Pays-Bas. Vous avez enregistré une quinzaine de disques, fondé deux ensembles. Un parcours sans faute époustouflant. Je fais très court, aux auditeurs. Mais une question, bizarrement, oui. L'archet ne vous a pas suffi.
Alors, et c'est... Oui, on pourrait dire ça comme ça, c'est-à-dire que, disons que plutôt que la littérature m'a toujours accompagnée dans l'ombre.
Oui.
J'ai toujours beaucoup lu, j'ai écrit beaucoup de journaux, enfin, il y avait l'écriture me taraudait, et peut-être ce que j'avais envie d'explorer c'était la création, c'est-à-dire c'est pas que l'archet me suffit pas, il y a quelque chose c'est une interprétation, disons, ce que je fais avec la musique,
oui.
Et donc là, dans l'écriture, j'aborde la création. Ce qui est peut-être étonnant, c'est que je ne sois pas allée vers la composition. C'est qui aurait peut-être été
là,
beaucoup plus logique.
Le domaine de la création.
Voilà.
Mais non, vous avez deux cordes à votre
violon. Exactement.
Plus de deux cordes.
Et j'en ai peut-être d'autres encore que je ne connais pas.
Voilà, on verra. On parlera d'ailleurs de l'influence de vos parents. Alors, réussite totale, vous avez débuté en 2010. Alors, une vraie carrière d'écrivain. Et vos ouvrages, donc, c'est édité pour la plupart chez Sabine Vespizer. Et vous avez eu plusieurs prix, alors de multiples. Le prix littéraire des Lycéens, le prix des libraires, le grand prix RTL, le prix des étudiants francophones, le prix du roman des étudiants France Culture Télérama pour le roman Point Cardinal. Enfin bon, voilà, une carrière qui est déjà bien, bien entamée. Et violon et écriture actuellement, ce sont deux activités à part égale ?
Plus vraiment. C'est-à-dire, quand j'ai commencé... Alors, pour dire, je me suis spécialisée dans le violon baroque, j'ai 42 ans aujourd'hui, j'ai commencé à peu près il y a 20 ans à ma carrière professionnelle de violon, j'ai beaucoup joué, j'ai beaucoup tourné, comme vous le disiez, j'ai fait beaucoup de concerts, et puis quand, à un certain moment de ma vie, donc il y a presque 10 ans maintenant, je me suis dit, bon, cette écriture quand même, elle est là, j'ai envie d'écrire un roman. J'en ai écrit un premier qui n'a pas trouvé d'éditeur, j'ai des encouragements, disons, et j'en ai écrit un autre, La Grâce du Cyprès Blanc, qui a été le premier à être publié, donc en octobre 2010, aux éditions Le Temps qu'il fait. Mais je ne savais pas du tout ce qu'était la vie d'un écrivain. C'est-à-dire, moi, je pensais que j'allais continuer d'être violoniste et que tranquillement, j'allais... je prendrais la plume, comme ça, tout à fait discrètement, et je ne connaissais pas la vie publique de l'écrivain. Donc après, j'ai publié chez Sabine Vespizer un premier roman qui a été un peu remarqué. Et puis, en effet, les prix sont arrivés. Donc avec les prix, une reconnaissance publique, critique. Cette vie de tournée qui est aussi celle des écrivains,
ouais.
Très prenante. C'est-à-dire quand un livre sort, on va le défendre non seulement à la radio comme aujourd'hui, mais aussi dans les librairies qui nous accueillent. Et pour Amour, Point Cardinal, j'ai fait 45 ou 50 librairies. À chaque fois. Donc, c'est vraiment. J'avais l'impression d'avoir exactement la même vie dans le train de tournée. Et donc, évidemment, ces tournées-là ont fait que j'ai fait moins de concerts. En tout cas, je ne suis plus intermittente du spectacle.
Mais est-ce que ces deux activités artistiques se nourrissent l'une de l'autre ?
Absolument. C'est un peu, pour moi, je pense, un peu compliqué d'expliquer de manière très objective comment. Je sais qu'elles me nourrissent. Donc, moi, ce que j'adore dans la musique, c'est retrouver aussi mes amis. C'est quelque chose de collectif. On joue ensemble. Il y a quelque chose du temps, évidemment, le rapport au temps présent, du concert. Ce collectif-là, me manque, évidemment, quand j'écris. Mais dans l'écriture,
il y a la création,
je suis seule, je suis complètement libre de mes sujets, de la manière de les traiter. Et ça, c'est une excitation intellectuelle extraordinaire.
Une grande liberté.
Donc, alors, je dirais que le pont, certainement, entre les deux, sont des notions communes qui sont l'harmonie, la justesse, le rythme de la phrase, le silence, qui tout ça, qui sont des notions très, très, très importantes pour moi quand j'écris. C'est-à-dire, je suis vraiment aussi à la recherche dans mon écriture propre, dans ma technique d'écriture, dans mes mots, d'une fluidité, d'un rythme, d'un livre dans lequel on pourrait rentrer et être happé par ce rythme. Beaucoup plus que les histoires, que la narration, même si j'adore la fiction, même si j'adore inventer des personnages, finalement je les invente pour pouvoir écrire, pour pouvoir être dans la recherche de cette langue-là. Donc ça, je dirais, sont les notions communes au violon et à mon écriture. Je ne sais pas comment dire inversement comment l'écriture nourrit ma recherche instrumentale. Ça reste plus... Je ne sais pas. Mais le violon m'accompagne, comme vous l'avez vu. Il est dans le studio.
Il nous accompagne au sens propre du terme. C'est ça. Alors, venons-en à votre ouvrage, donc intitulé Manifesto. On parlera du titre aussi. C'est difficile, toujours pour une fille, de voir mourir son père. Un père aimé, un père admiré, très présent. Et cet acte final auquel vous avez assisté, il me semble qu'il a fallu attendre quelques années pour que vous puissiez en parler.
Mmh. Oui, absolument. Alors, il m'a fallu 3 ans à peu près, en ayant la certitude qu'un jour ce livre existerait. C'est-à-dire, je savais que si j'étais capable de l'écrire, je l'écrirais. Je suis heureuse d'avoir pu l'écrire, et comme j'ai été aussi heureuse d'être là près de lui. C'est-à-dire, je savais à ce moment-là que je vivais un moment important de ma vie, et j'étais heureuse d'être pouvoir être près de lui dans ce moment pour lui. Donc oui, par contre, il a fallu évidemment un temps certain pour pouvoir prendre la distance, je crois. C'est juste ça, pour pouvoir faire un pas en arrière et pour pouvoir en faire un personnage de roman, pour que Félix devienne aussi un personnage de roman, et cette distance-là me permet de l'écrire. Sinon, j'aurais écrit un journal intime sur cette dernière nuit. Si ce livre devait être exutoire, il aurait été écrit comme ça.
Oui.
Or, je voulais en faire autre chose.
Oui, alors, c'est vrai que cet ouvrage évoquant la mort de votre père, c'est un ouvrage intime, délicat à écrire, écrit avec délicatesse. En fait, il y a beaucoup de pudeur pour raconter cette agonie, mais vous y mêlez aussi beaucoup de vie, de scènes, de récits de vie. Et c'est ce qui était nécessaire, justement, avec ce recul.
Oui, sûrement. Et puis, je voulais en faire un portrait vivant. C'est-à-dire, même si c'est un tombeau, comme on dit, de ces textes, de la forme du texte est un tombeau, évidemment, mais j'avais envie de lui redonner vie. C'est certainement une ambition comme ça, complètement folle. Et puis, parce que aussi, c'était quelqu'un d'extrêmement vivant, passionné, avec beaucoup, beaucoup d'énergie dans la vie de tous les jours, dans son art, dans tout ça. C'était quelqu'un comme ça de très, très fort. Et je voulais rendre hommage à ça, c'est-à-dire juste parler de sa mort et de son absence et de ma tristesse. Non, je voulais faire un portrait, je crois. Et ce portrait arrive aussi par les souvenirs, par ce qu'il en dit, par ce que j'en sais, par ce que j'en vois, par ce que j'invente.
Oui, justement, alors ces souvenirs et pas ce qui importait dans la vie de cet homme, Félix. Et c'est quand même, en effet, vous l'avez dit, une manière de le faire exister encore et au-delà du deuil.
Absolument. Là, je pense que c'est une trace.
Oui.
C'est une trace, c'est redonner la parole. Enfin, c'est la magie de la littérature, de toute
Absolument.
Manière. Ce qui me plaît beaucoup, c'est de pouvoir imaginer que chaque personne qui entre dans ce livre et qui s'y plaît pourra entendre sa voix, même si c'est à travers moi. Enfin, peu importe.
Oui, alors justement, parce que ce qu'il y a d'intéressant, c'est que en fait, ce sont de courts chapitres qui se succèdent en alternant les voix. 3 narrateurs. Il y a vous, il y a Félix, et puis il y a Ernesto. Parfois, il y a un dialogue d'ailleurs entre Ernesto, alors c'est Ernest Hemingway, que nous connaissons tous, et Félix. On en parlera de ce rapprochement. Mais je pense à un moyen très subtil de montrer les différentes facettes de votre père.
Oui, et je voulais lui donner la parole. Alors pour autre chose qui n'a rien à voir, c'était que je n'ai jamais écrit de roman à la première personne. Je voulais que celui-là soit à la première personne, c'est-à-dire que le « je » soit extrêmement présent, la prise de parole le soit, la mienne, dans cette nuit, puisque, donc, comme vous le disiez, le livre est en alternance entre le récit de la nuit, de la dernière nuit, où je prends la parole, Léonore prend la parole, la narratrice, et en alternance avec donc Félix et Ernesto qui soient, disent « je » l'un et l'autre. Et ça, il me semblait que la parole, la voix, qui est ce qu'il y a de plus vivant, de ce qu'on entend à la radio par exemple, c'est le souvenir des voix, donner la voix, donner la parole, ça c'était mon désir premier.
Il y a une présence.
Parce qu'il y a une incarnation.
Une incarnation.
Il y a l'incarnation, et je crois que c'est cette incarnation que je voulais, voilà, dans ce rêve de lui redonner vie, c'était l'incarner, et donc... Comment faire autrement que de lui donner, de lui rendre la parole, enfin. Et ça, c'était, ça me semblait plus fort, plus puissant, en tout cas pour moi aussi, pour l'écrire, que d'en faire une narration omnisciente avec « il a fait ceci, il a fait cela ». Je ne voulais pas de cette distance-là. Je voulais qu'on soit à l'intérieur.
Alors, vous, c'est souvent, quand vous êtes présente dans l'ouvrage, c'est souvent dans l'hôpital, dans la nuit auprès de votre père, avec votre mère et vos souvenirs. D'ailleurs, avec votre mère, on sent qu'il y a une je dirais, je ne sais pas, complicité. Enfin, en tout cas, vous n'avez pas besoin de mots entre vous.
Non.
Ce n'est pas nécessaire. Non. Et ça, je trouve ça magnifique. Nous sommes dans la réalité médicale, douloureuse et crue. Et vous savez bien montrer cette sorte de no man's land. On veut que ça se termine et en même temps, on ne veut pas.
Oui, c'est-à-dire, on est dans un temps complètement ahurissant dans ce temps-là, puisque nous entrons dans cette chambre, il est mis sous sédation profonde, sous morphine, donc on sait, c'est-à-dire il n'y a pas de doute, on sait que la morphine va faire son effet et donc il va s'éteindre et mourir. On ne sait pas le temps que ça va prendre. Donc il y a, enfin on sait tous qu'on va mourir, mais on s'y attend, mais là on attend. Il y a ce jeu sur ce mot-là et qui, en effet, a provoqué dans cette attente-là pour moi, en tout cas, des sentiments très, très contradictoires parce qu'on a attendu longtemps, plus de 12 heures, 14 heures, c'était long, évidemment, sans répit. Et y avait j'étais parfois dans cette dualité de sentiments de savoir que c'était maintenant ou jamais, d'être près de lui, de me souvenir, donc dans cette puissance de l'instant, et puis parfois dans une colère et un abattement de dire bon, ça suffit.
Un moment de révolte.
Un moment de révolte, de dire bon, ben ça y est, c'est trop long, cette attente, même si elle est trop courte et trop longue.
Enfin, oui, voilà.
Il y avait ces deux sentiments-là que j'avais envie de dire. J'avais envie aussi d'être tout à fait honnête dans ce texte et de dire la colère qui parfois s'est emparée de moi, mon impuissance, le fait de vouloir partir, comme vous le disiez, de ces chambres d'hôpital qui sont toutes petites, qui sont complètement impersonnelles pour des moments si forts, le corps médical qui n'est pas formé, qui a été très très absent.
Et puis de toute façon, dans tous les cas, on lui en veut.
Oui, de toute façon. Et puis là, il y avait une sœur. Bon, en plus, on était dans un service qui n'était pas de soins palliatifs. Donc, je pense que aussi l'équipe n'était pas formée.
Pour cela.
Donc, je leur en veux pas. Mais sur le moment, on s'est senti très seul, quoi, très livré à nous-mêmes Voilà.
Alors, dans votre ouvrage, il y a aussi, alors il y a cette réalité dont vous venez de parler, et puis il y a un côté quasi onirique, en tout cas fictionnel, les souvenirs de Félix, votre père, et d'une autre personne inattendue, donc c'est Ernest Hemingway. Alors, les souvenirs de Félix, votre père, ne sont pas forcément fictifs, mais il y a ces rencontres qui sont au-delà, puisqu'ils n'ont pas vécu en même temps. Votre père était beaucoup plus jeune, si j'ai bien compris.
Oui, il avait 30 ans. Alors, mon père est né en 1932, donc juste pour refaire mon père est né en 1932 au Pays Basque espagnol, et comme toute sa famille était républicaine, en 1936, quand le Pays Basque tombe très vite aux mains de Franco, toute la famille part au Pays Basque, d'abord français, à Hendaye, et ensuite dans les Landes. Et ils vont vivre une vie d'exilé. Enfin, ma grand-mère retournera au Pays Basque à la mort de Franco. Donc j'ai, oui, il y a des choses qui sont... Il y a ces souvenirs qui sont là et que j'ai inventés, et d'autres qui sont tout à fait réels.
Oui, parce que alors, si on parle de Félix, bon, c'est, oui. Il y a d'abord ces souvenirs d'enfance en Espagne.
Oui.
Bon, la guerre civile qu'il a ressentie, hein, certainement, en étant enfant, les oncles qui ont des activités mystérieuses, l'enfant, oui, et puis cette angoisse qui devait
bien
exister
sûr.
Dans la famille
bien
que
sûr.
L'enfant ressent.
Bien sûr.
J'étais amusée, enfin, je pense qu'il y a un côté symbolique. Vous parlez beaucoup de l'arbre,
oui.
Il a une place importante.
Oui. L'arbre de Guernica.
L'arbre de Guernica et ce vieil homme.
Oui.
Hein?
Oui, alors ça, c'est ça, tout est très inventé. Alors là, ça s'est inventé.
Oui, oui, j'imagine.
Parce que ce que j'ai trouvé, ce qui m'a semblé aussi, c'est que mon père, donc il y a cette culture basque espagnole, la langue, hein, il parlait basque avec sa mère et espagnol avec ses oncles, français avec ses frères. Donc, mais ce territoire basque, il a très peu connu, c'est un territoire fantasmé déjà
oui.
pour lui.
Ben
c'est
oui,
le territoire nostalgique, c'est le territoire mélancolique d'une famille. Il m'en parlait comme ça, sans jamais y être vraiment retourné pour y vivre, donc quand même en ayant fait sa vie en France. Mais à partir du moment où lui meurt, ce territoire n'existe plus. Donc il me l'a transmis et moi je pense que j'ai eu besoin d'écrire aussi sur cet arbre basque très symbolique à Guernica.
Oui, sur une place. En plus Guernica est tout un symbole.
Tout un symbole et puis cet arbre existe et en effet c'est un lieu très important pour les gens de Guernica où quand il se passe quelque chose dans la ville, quand on doit se faire un serment, quand on doit se retrouver, on se retrouve devant l'arbre. Donc de toute manière cet arbre
D'accord.
est chargé de l'âme basque, disons.
Oui.
Donc
oui.
Écrire sur cet arbre, écrire sur le très vieux, qui est ce personnage inventé du vieil homme du sage.
Du sage.
Du sage, oui. Qui transmet les légendes, qui transmet une certaine idée de la culture, une certaine idée de qui l'on est. Je crois qu'en inventant ce personnage, c'était ma manière à moi de me réapproprier ce territoire que j'investis à travers l'écriture et que j'investis à travers mon imaginaire et qui donc maintenant est en moi parce que je l'ai écrit.
D'accord.
Et donc il est passé de mon père qui en parlait et qui à sa mort me le transmet comme le violon. Enfin, c'est de toute manière, ce livre est une histoire de transmission.
Bien sûr, bien sûr. Et donc il parle de cette Espagne fantasmée. Il parle également de l'exil.
Oui.
Alors, la pauvreté, il y a une forme... On passe de l'argenterie monogrammée à la terre battue, à la honte peut-être. En tout cas, le rejet.
Le déclassement social, évidemment.
Et le rejet. De
oui.
la part des copains à l'école. Et puis, la mort de ce père. Alors, je ne sais pas à quel moment, mort violente,
oui.
écrasée par un
en
camion.
En 49.
Oui,
donc mon père a 17 ans. Et puis surtout, alors ils étaient très, très attachés évidemment à leur père, mais il y avait cette absurdité de la vie et de la mort qui fait qu'ils avaient quand même réussi à traverser la guerre civile, la Seconde Guerre
intact.
Mondiale, quand même tous intacts, ce qui était avec leurs activités politiques quand même plutôt bien. Et puis, il s'est fait écraser par une voiture.
Ouais.
Donc, je pense que vraiment, ça a été une sorte de choc que la mort vienne par là. C'est-à-dire, je pense qu'il s'attendait à ce que la mort ouvre la porte, mais pas de cette manière-là.
Alors, quand vous dites la mort ouvre la porte, il y a également la douleur, l'indicible douleur causée par la mort violente de ces trois enfants en 3 ans. Vous en parlez, justement, est inacceptable, inconcevable, dit-il. Mais il a survécu. Et effectivement, quand on lit ça, qu'on est parent soi-même, et même on se dit qu'en effet, ça, c'est quelque chose d'abominable. J'ai survécu en entrant peu dans l'espace créé par ces deuils. La plaie est profonde, elle ne se referme pas. L'amour non plus, il résiste jusqu'au bout. Alors, il n'y a plus de passé, de présent, de futur. Toute temporalité est balayée.
Oui, c'est la sidération. Moi, je l'ai vu... sidéré de ces morts-là. Et en effet, il n'y a pas d'explication. Ils étaient, évidemment, ils étaient tous très, très drogués, très, très addicts à l'héroïne. Donc, ce qui, en général, provoque la mort d'une manière ou d'une autre. Et quand ils sont morts les uns après les autres, oui, mon père a été sidéré. Et j'ai vu qu'il n'avait aucune réponse. Je ne sais même pas s'il en a cherché, en fait. Je crois qu'il a juste parce que il y avait ma mère, parce que j'étais là, il y a une sorte de survie qui s'est mise en place avec cette plaie qui était là, très très profonde, comme je dis, qui ne s'est jamais refermée, ça je le voyais, et en moi aussi, par ailleurs, hein, leur mort aussi a provoqué une plaie. Il y a un lieu très précis qui est là, de cette plaie, on vit avec.
Bien sûr.
Comment, après, chacun trouve ses armes pour vivre avec.
Et vous dites... Je ne peux plus mourir, je dois être en vie pour lui.
Pour mon fils.
Oui,
oui.
C'est ça. Parce que, est-ce que vous avez eu peur d'une malédiction? Parce
oui,
qu'on va
j'ai
parler
peur
de,
d'une malédiction.
On va parler d'Hemingway, justement.
Oui, mais c'est pour ça que j'ai choisi aussi Hemingway.
Oui,
hein.
D'accord.
Oui, bah, c'est-à-dire quand je me suis retrouvée... Alors, nous avons notre père en commun et pas notre mère. Moi, je suis issue du deuxième mariage de mon père. Je me suis demandé, quand ils sont tous morts et que Frédéric, le dernier, s'est suicidé, je me suis demandé si moi aussi, ça allait me tomber dessus. Oui. D'abord, je me suis demandé si mon père n'allait pas se suicider lui-même, s'il allait tenir. Il a tenu, donc on a tenu. Je pense qu'on s'est soutenus, tous les trois, avec ma mère, lui et moi. Et je me suis demandé si j'allais pas... Alors, soit j'entrais dans ce chemin. C'est-à-dire, moi, j'ai eu une enfance très, très heureuse, très, très lumineuse. J'étais très choyée,
oui, ça, oui.
J'étais très aimée, j'ai eu beaucoup de chance. Et ces morts, quand j'étais adolescente, sont vraiment venus faucher quelque chose de cette insouciance.
Oui.
Donc, mon enfance s'est finie quand j'avais 13 ans, à la première mort, à la mort de Dominique, qui est mort d'une overdose. Et comme c'était la drogue, tout ça, c'est quand même un côté très très sombre de la vie, très 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 obscur, très... Et ça, c'est une grande découverte pour moi. C'est-à-dire, je vivais dans un monde très lumineux, et donc la découverte de l'ombre, et je me suis demandé si j'allais prendre ce chemin-là. J'ai résisté, je crois, parce que j'ai été aimée très fort. J'ai résisté, je résiste à travers mon écriture, je résiste à travers la musique, c'est ma lumière. C'est ma quête.
Oui,
donc, oui, j'ai eu peur de la malédiction. Alors, il n'avait pas d'enfant. Évidemment, je ne dirais jamais que j'ai eu un enfant pour survivre. Ce que je peux dire, c'est que j'ai désiré très fortement cet enfant,
Hector. Ouais, il vous
Hector,
apporte la vie.
Bien sûr.
Et puis, vous vivez, évidemment, aussi.
Aussi,
pour lui.
Évidemment. Donc, j'ai quand même cette responsabilité vis-à-vis de lui, d'être en vie. Certainement, mon père l'a eu aussi vis-à-vis de moi, de rester en vie.
Mmh.
Et ils sont tous morts à 30 ans. Et moi, j'ai Hector est né quand j'avais 29 ans, presque 30 ans, 29 ans et 11 mois.
Ah oui, presque 30 ans, en effet.
Juste à temps, c'est ce que je dis dans le texte.
Chez Félix, je me suis posé la question, cette mémoire, cette lucidité qui s'en sont allées avec la maladie d'Alzheimer. Alors, je sais qu'il y a des raisons biologiques à la maladie d'Alzheimer, mais je me demande parfois si cette usure provoquée par ces souvenirs, ce trop plein de souffrance,
peut-être.
C'est une façon d'oublier, finalement.
C'est peut-être, je ne sais pas. Évidemment, je me pose la question. Évidemment, dans son cas, alors je ne sais pas, il faudrait... Je ne sais pas si la maladie est présente, elle est déclenchée parce qu'il y a ce terrain émotionnel extrêmement fort, justement d'un moment où on lâche. Mmh. On largue les amarres. Je ne sais pas, mais évidemment, oui, je me suis dit, peut-être à un moment, il a juste envie d'oublier... Je sais pas.
Alors, venons-en à Ernest Hemingway, oui. Qui apparaît donc comme un personnage à part entière dans votre roman, dans votre livre. Bon, de commun, il y a évidemment la guerre d'Espagne et les traumatismes. Il a été blessé.
Oui.
Il a été blessé en Italie.
Voilà. Pendant la Première Guerre mondiale.
Voilà. Mais il a participé
oui.
à la guerre d'Espagne. Ça a inspiré également leur art. Pour qui sonne le glas, c'est la guerre
Bien
d'Espagne.
Sûr.
Et votre père va peindre et sculpter des hommes déchirés, martyrisés.
Oui.
Je pense que ça
bien
a,
sûr.
A,
ah, la
a
guerre,
nourri
bien
leur
sûr.
Art.
La guerre, c'est-à-dire la vision,
la souffrance,
la
oui.
souffrance et puis le corps,
oui,
la blessure du corps. Là, c'est bon, il y a non seulement la blessure psychologique, mais enfin,
oui.
dans la guerre, il y a aussi des blessures qui sont tout à fait physiologiques et qui viennent hanter, je
voilà.
pense.
Oui.
Et alors, ce qui est assez étonnant dans le choix d'Ernest Hemingway, c'est que ça m'est venu justement pour ce que vous disiez, son engagement. Donc en 1936, il est à Madrid, il est reporter de guerre pour un journal américain et pour suivre la guerre d'Espagne. C'était un antifasciste, évidemment. Et donc il était très impliqué du côté des républicain pour cette guerre. Alors il y a ça qui me suis dit, tiens, il pourrait être un interlocuteur. Il y a le fait qu'il adorait aussi la corrida, qui était très, il aimait beaucoup la culture espagnole. Et puis son rapport à la mort. Oui. Donc, parce que quand même, grande famille de suicidés chez Hemingway, son père, son grand-père, lui,
et puis ensuite,
sa
après
fille,
lui.
C'est tout le monde. Alors bon, après, on s'est aperçu hein, depuis que en fait, ils avaient tous une maladie, un trop-plein de fer, beaucoup trop de fer dans leur sang, qui fait que ça provoque des très 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 grandes dépressions.
D'accord.
Donc bon. Ceci explique peut-être cela ou pas, mais en tout cas, bon, voilà. Donc, ces résonances-là, je me suis dit...
Et il y avait quand même un lien quasi familial.
Absolument.
Il allait chez la tante.
Il allait chez... Mais alors, mais ça, je l'ai découvert après.
Ah oui, d'accord.
Après avoir décidé que Hemingway serait mon personnage. Et je me suis dit que ma mère, Félix et moi, dans cette dernière nuit, on était coincés dans cette chambre, mais ça faisait longtemps que l'esprit de Félix était ailleurs. Mmh. Il était dehors. Et j'avais envie, justement, dans ce dedans-dehors de l'alternance, de son esprit à lui, avec Hemingway, où en effet est balayé l'écart générationnel qu'ils ont, où ils pourraient avoir cette discussion à bâton rompu sur ce qu'ils étaient, sur la vie, sur leurs désirs, sur leur création, sur tout ce qui les animait.
Ils avaient des choses en commun. Ils avaient justement cette vie, ce désir d'aller de l'avant. Votre père l'a prouvé malgré tout ce qui lui est arrivé. Cette beauté, parce que les deux étaient très beaux hein, aussi. Et donc, on comprend très bien qu'ils auraient pu, s'il n'y avait pas eu cette discordance d'âge, s'entendre.
Ah, oui, oui.
Voilà. Alors, pour l'heure, on va faire juste une courte pause musicale. Vous nous direz après de quoi il s'agit, mais vous allez reconnaître
très bien.
Parole d'auteur, Monique Fauché.
Nous sommes en compagnie de Léonore de Récondo et qui nous parle de son nouvel ouvrage. On ne va pas dire que c'est un roman. Ce n'est pas un roman.
C'est un texte hybride.
Intitulé Manifesto, paru aux éditions de Sabine Vespizer. Et qu'est-ce que nous venons d'entendre là?
Alors là, on vient d'entendre du Corelli, magnifique Corelli, les sonates da Chiesa.
Que vous avez écouté particulièrement.
Oui, que j'ai. Alors ça, je pense que ça a été la grande découverte pour moi du monde baroque, du violon baroque, avec un grand violoniste qui s'appelle Enrico Gatti, qui a été mon professeur, mon maître après dans ce monde baroque. Et j'ai fait des études de haut niveau de violon, évidemment. Je suis allée étudier aux États-Unis. J'ai eu un diplôme à Boston, dans un grand conservatoire américain. Sauf que dans mon éducation musicale, disons, je n'avais jouer que de la musique romantique, parce que c'était comme ça à l'époque, ça bouge un petit peu, mais bon. Mais je ne savais pas, par exemple, que Corelli avait existé. Corelli, c'est un très très grand violoniste autour de 1700 à Rome, et ça a été une très très grosse claque, je dois dire, d'entendre cette musique. Et tous ses prédécesseurs et ceux qui ont suivi, Tartini, Vivaldi, tous ces grands violonistes. Et je me suis dit que j'avais envie de découvrir ce répertoire. Et je l'ai découvert grâce à un enregistrement, donc de ces sonates et d'Achesa par Enrico Gatti, son ensemble Aurora. Et ça a changé ma vie, et évidemment mes parents, qui étaient très attentifs à ce que je faisais, ont beaucoup aimé ce disque, cette musique, et ils m'ont accompagné aussi.
Alors oui, justement, parlons de vos parents. Mm-hmm. Y a la transmission d'un don, d'un talent, d'un goût pour la beauté, oui, d'un goût pour le geste parfait. Est-ce que... Je me suis posé la question, est-ce que c'est génétique?
Je ne sais pas, écoutez, mon fils n'a pas l'air d'être très très artiste pour l'instant.
Non. Donc, attendez, quel âge a-t-il?
12 ans. Ah, quand même. Son père est chanteur d'opéra, pour l'instant, écoutez, on va voir.
Bon, mais alors, l'éducation, l'environnement, mais non, oui, vous dites, on peut... On sait
je,
pas. Sais,
je ne sais pas. Je crois qu'il y a eu le goût de cette vie. C'est-à-dire, je les ai vus, ce qui était particulier, le fait qu'ils soient tous les deux peintres, dessinateurs, c'est que leur atelier était dans l'appartement. Donc en fait, il y avait une très grande présence, oui, de
et
mes parents.
Et puis entre l'intime, la vie familiale et la vie professionnelle, oui, si je peux dire, il y avait une...
Une sorte de... C'était très, très transversé, c'était très, oui, traversé, c'est-à-dire, oui, les territoires étaient, oui, très traversés.
C'est et vous même... pouviez, vous, aller de l'un
bien
à l'autre.
Bien sûr, moi je me plantais mon pupitre au milieu de l'atelier, parce qu'il fallait quand même que j'existe un peu, vous comprenez. Et je travaillais mon violon, je leur parlais. Donc cette présence, c'est-à-dire pour les enfants, en général, les parents ne sont pas à la maison, c'est quand même assez rare. Oui. Le travail est ailleurs, on, ouais, revient dans sa vie familiale. Or là, c'était tout le temps traversé. Aussi, et puis après, les amis qu'on a souvent sont les amis du travail. Donc évidemment, mes parents étaient amis avec beaucoup d'artistes. Donc je les ai vus, je me suis dit quand même, c'est... Moi, je dis toujours qu'ils mettaient les mains dans le cambouis de la beauté. Et je crois que c'est ça, c'est cette contradiction entre cette difficulté. Alors vous disiez le goût du geste parfait. Moi, je vais rajouter le goût de la quête du geste parfait. C'est-à-dire, c'est vraiment
la recherche,
la recherche. Mmh. Le chemin, la difficulté, la discipline qu'il faut pour tendre vers ce geste, pour parfois en avoir l'image assez nette, mais ne pas pouvoir le reproduire, que ce soit évidemment en violon, que ce soit dans l'écriture, le geste, la phrase, la respiration, le souffle. On parle toujours de souffle, enfin, moi je crois au souffle. Et donc ça, j'ai eu envie de cette liberté qui évidemment amène beaucoup de précarité, parce qu'il y a eu des moments difficiles aussi dans la famille, mais je ne pouvais pas faire autrement. Je suis l'émerveillement est très important pour moi.
Mais vous n'avez pas choisi la peinture.
Et ah non, non, parce que là, c'était
c'est votre
quand
liberté.
Même, c'est ma liberté. Ma liberté, c'était de trouver quand même un autre territoire dans ce vaste territoire artistique, quand même. D'abord la musique, parce que je ne sais pas, la musique, le violon, pour moi, c'était évident très tôt.
Mais il n'y avait pas de musicien dans...
Il y a des musiciens. Alors, il y a le frère de ma mère, un de mes oncles, qui est facteur de clavecin, pas loin d'ici, à Barbaste, qui s'appelle Philippe Humeau, et dont toute la famille est musicienne. Donc je les ai côtoyés, évidemment. J'ai écouté mon cousin qui, à l'époque, jouait du violon. Donc peut-être il y a eu cette révélation à ce moment-là. Et je crois que j'avais envie de trouver mon territoire à moi qui n'était pas exploré par mes parents, où j'allais pouvoir être moi-même ne pas être jugée. Et je pense que de toute manière, pour les enfants en général, c'est bien. Enfin, on peut aussi rentrer dans le sillon familial. Et ça aide évidemment d'avoir des parents. Moi, mes parents connaissaient pas grand chose en fait à l'apprentissage d'un instrument, même s'ils étaient mélomanes. Mais c'était bien parce qu'ils ont quand même des personnalités très très charismatiques. Et donc j'ai pu trouver mon chemin.
À un moment donné, je lis et c'est Félix qui parle, que vous faites parler, à force de l'écouter, de regarder son corps avancer, il s'agit de vous, de se crisper, se détendre, les difficultés techniques qui semblaient insurmontables, et soudain, la respiration qui s'engouffre et qui, un court instant, vient éclairer la densité du temps, sa masse. J'ai alors imaginé que j'étais moi-même musicien et qu'elle dessinait avec son archer que ce qui nous intéressait l'un et l'autre, c'était d'entrer main en avant dans cette masse et de laisser le souffle y trouver sa place, toute sa place.
Oui. Oui. Oui, on parlait beaucoup de ça avec, avec mon père, des concordances entre le geste. Alors lui a fait beaucoup de très grands formats, c'est-à-dire il a beaucoup dessiné sur des feuilles qui faisaient 1m60 sur 1m20, donc vraiment presque à hauteur d'homme, disons. Donc ce qui faisait des gestes très amples avec son bras, avec son crayon, qui évidemment venait rappeler le geste de l'archet.
D'ailleurs, vous ne parlez pas du tout de l'effet des œuvres de votre père sur vous.
Non, c'est vrai. Non, je parle de l'homme. Je crois que je parle de l'homme, je parle du créateur, je parle dans ce désir d'incarnation, je parle peu de ses œuvres en elles-mêmes, je ne les décris pas, alors que c'est un monde extrêmement fort et qui évidemment m'a beaucoup marqué, comme il est marquant.
On peut dire à nos auditeurs que ce sont des tableaux qui montrent des corps, souvent, des corps un peu... comment dirais-je, moi j'ai pensé aussi à Bacon.
Ah, absolument, absolument, hein, vous avez tout à fait raison. C'est figuratif, oui, déjà, c'est ce qui est assez rare aujourd'hui, mais enfin, c'est vraiment très figuratif. Dessin pastel, parfois, de pastel sec, justement, alors c'est peut-être ça qui ressemble le plus à Bacon, avec des très grands formats, souvent un homme, rarement deux, un homme au centre de ce très grand format, très coloré, avec des hommes torturés, des regards puissants, quelque chose autour du corps.
On voit les muscles aussi.
On voit les muscles,
oui, les nerfs, les tendons.
Il avait beaucoup étudié l'anatomie. Donc c'était et avec, évidemment, moi je pense, dans la très grande tradition de la Renaissance, aussi il a fait du bronze, des personnages en bronze, dans cette très grande tradition de la technique, quand même, très très abouti au service d'un esprit.
Oui. On pourrait dire qu'il y a quelque chose de douloureux, et pourtant, alors j'ai lu dans une interview qui disait, on pourrait croire que je suis terriblement triste, mais en fait c'est le contraire.
Oui.
Bien que je ne puisse ignorer l'inacceptable, il y a dans ce miroir qu'est mon travail toute une sagesse que possèdent mes personnages et à laquelle j'aspire probablement en secret.
Oui, 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 il y avait ça. Alors, moi, je crois que de toute manière, les grands désespérés ont beaucoup d'humour en général. Hein.
Oui.
Ça va ensemble. L'intelligence va avec l'intelligence de savoir le peu de choses que nous sommes et de la joie d'être en vie. Et c'était quelqu'un de très heureux, de très drôle. Et ça aussi. Et peut-être, c'était un équilibre hein, qu'il trouvait en lui entre ses œuvres torturées et cette joie de vie.
Oui. Oui, certainement, certainement. Alors, il y a l'acte, je dirais fondateur pour vous, mais le violon qu'il a fabriqué pour vous.
Oui.
Avez-vous joué dessus ?
J'ai joué dessus. Alors, je n'ai jamais joué en public dessus. Ça n'a jamais été mon instrument.
Pourquoi ?
Je ne sais pas. Je pense que c'est... Alors, je pense que là, mon père entrait dans un territoire dans lequel il n'avait pas à entrer. Je me suis protégée.
D'accord.
Il y avait quelque chose de cet ordre-là. Évidemment, pour moi, c'était une très, très, très belle preuve d'amour, très belle transmission aussi. Puis je pense qu'il avait ce désir de connaître cette musique et puis la beauté de l'instrument. Le violon, c'est un instrument magnifique. Sa forme a été définitive à la fin du 15e. Elle a pas bougé parce que c'est une forme parfaite. Vraiment la table d'harmonie, la caisse, le manche pour pouvoir
jouer. Je vous arrête, Léonore. Vous pouvez lire un
extrait ? Avec plaisir.
Voilà, il s'agit justement d'un chapitre qui est court,
oui,
sur ce violon.
Très bien. Le violon, je l'ai sculpté en Italie. Je rentrais de la fonderie après des heures de ciselure et je m'y mettais. J'étais sale, couvert de poussière de bronze, ma transpiration devenait verte. Au cours de la journée, ma peau se remplissait de limaille, mes cheveux s'oxydaient et l'odeur âcre du métal peu à peu m'imprégnait. Les lavages et les rinçages n'y faisaient rien. Alors imagine ma joie lorsque je touchais la délicatesse du bois, sa chaleur aussi. Il me semblait si fragile, presque mou. Je n'avais pas à lutter, juste à creuser. Quand j'arrive via Del Teatro dans l'atelier de mon ami luthier, je me sens pouilleux, gêné. Le sol est pourtant recouvert de copeaux. Mais il règne dans cet espace un silence et une concentration que je ne trouve jamais à la fonderie, où ça discute fort, où ça rivalise avec la radio allumée en continu. On entend les rires, les limes, les ciseaux sur le métal, les chalumeaux aussi, pour les patines à chaud. Dans l'atelier du luthier, on n'entend rien. Est-ce que c'est parce qu'on y sculpte des instruments de musique ? J'entre pour lui emprunter ses gouges. Il sourit de me voir arriver à vélo, ma planche à la main. Aujourd'hui, je commence le fond. Un dos entier qui ondule, sans rupture en son centre. Ernesto, quand je te montrerai le violon, tu verras la beauté de l'érable ondé, tu le verras chatoyer, tu ne pourras pas t'empêcher de le caresser, il est beau ce dos, épaules nobles, juste ce qu'il faut de carrure, taille discrète qui s'efface, la façon doit disparaître, ne doit rester que le miel vibrant du vernis qui s'assombrit dans la veine du bois.
Alors, en lisant ce chapitre, moi, toute béotienne que je suis, c'est là où j'ai vu la complexité, la densité du travail à tous les niveaux, de la fabrication et puis après de l'interprétation de tout ça. Il y a tout un langage,
bien sûr.
Il y a tout un, c'est un art même tout de fabriquer.
Art. Oui, tout l'art de la fabrication, c'est-à-dire comment faire que cet instrument soit le meilleur possible, c'est-à-dire donne le meilleur son, sonne le plus possible. Donc c'est et le violon, c'est un instrument tout petit. Très fragile, une toute petite caisse de résonance qui pourtant est super puissante.
Bien sûr, bien sûr.
Elle, dans des très grandes salles de concert, on entend très bien un violon. Donc c'est une sorte de perfection quand même, cet instrument. Il y a aussi l'histoire du vernis, comment le protéger. Le vernis vient aussi aider à propager les ondes, à le faire sonner. Donc il y a ce grand art de la lutherie qui ensuite est déposé dans les mains du violoniste qui lui aussi, dans cette recherche, dans cette quête de comment faire sonner l'instrument, comment faire sonner cette musique, ouais. Comment l'interpréter, comment la donner le mieux possible. Et moi, je pense souvent à mon violon est un violon de la fin du 18e siècle, français, et j'imagine toutes les mains qui se sont posées sur cet instrument, toutes les histoires.
Vous devez y tenir énormément.
Oui, c'est mon violon. Alors, on a des rapports très étranges avec ces instruments. Des fois, oui, puis des fois, j'en ai marre. Et puis, mais à chaque fois, je pense à tous ceux qui m'ont précédé sur ce petit manche et tout ce qu'ils ont voulu dire et tout ce qu'ils ont pensé, tout ce qu'ils ont aimé toute leur vie. Puis, ils ne sont plus là. Je suis avec cet instrument. Qui me survivra.
C'est encore la continuité.
Absolument. Et pourtant,
comme l'écriture,
quelque chose reste. Je suis persuadée que quand je fais sonner cet instrument, comme tous les violonistes le font, un peu de l'histoire des musiques qui ont été jouées, un peu de l'histoire des violonistes qui ont joué cet instrument reste et vibre. Et ça, je trouve que c'est extraordinaire. C'est le pouvoir de l'art, c'est le pouvoir d'aimer, d'être ému par les œuvres d'art qui nous traversent.
Il y a quelque chose d'assez étonnant. Votre père, qui est peintre et sculpteur, alors que vous vouliez l'enregistrer pour qu'il évoque ses souvenirs d'enfance, vous avez branché le magnétophone et il s'est mis à dessiner. Oui. Alors déjà, ça, j'ai trouvé ça très drôle et vraiment très fort, parce que
c'est
magnifique.
Génial. Ah, il pensait en dessinant. Alors ça m'avait fait, sur le moment, c'est là, quand je l'ai réécouté...
Vous étiez dépitée sur le moment.
J'étais dépitée. Alors j'osais pas trop lui dire, écoute, est-ce que tu pourrais plutôt parler, parce que là je t'enregistre, plutôt que de me faire des petits dessins. Et quand j'ai réécouté, avant d'écrire Manifesto, quand j'ai réécouté ces entretiens, j'entends la mine... Du crayon qui fait cric, 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 parce qu'il me dessine la ferme
et
des Landes.
Il est présent.
Il m'écrit le prénom de tous les gens qui ont habité. Il me dessine comment la ferme était fichue, tout ça. Et il me dit rien. Enfin, il me dit si, alors là, tu vois, il y avait ça. Bon. Et évidemment, je n'ai plus ce croquis, mais reste le geste.
Et le bruit.
Et ce bruit, c'est une sorte d'émotion, évidemment, parce que quand on enregistre, on s'attend à entendre la voix. Et je m'attendais à l'entendre, mais j'avais complètement oublié ce début d'entretien. Alors après, il se met à parler. Mais ce début d'entretien où j'entends son cri, il me dit « Attends, Léonore, j'arrive ». Donc déjà, il se déplace alors qu'il devrait rester près du micro. Il va chercher sa feuille, il revient avec son crayon, on entend la mine.
Oui, le dessin raconte, mais le silence aussi, et le violon peut raconter aussi.
Oui, le violon. Alors, de toute manière, dans le choix quand même romanesque du texte, c'était d'utiliser ce violon comme un fil rouge, c'est-à-dire la construction du violon et le fil rouge du texte, qui va évidemment être fini à la fin de ce manifeste, appelons-le comme son titre l'indique, de ce manifeste de liberté et de vie. Et donc, c'est la transmission, évidemment, c'est la métaphore de la transmission, de cet instrument qui se construit, qui va être joué et qui m'est donné.
Oui. Vous venez de parler du titre de manifesto, de manifeste. La liberté chez votre père, vous la trouvez où ?
Je la trouve dans sa force d'avoir survécu. C'est-à-dire, il faut quand même être très, très libre, très fort, très, très, très en vie pour avoir survécu. Et je la trouve dans son geste créatif de la transfiguration qu'il fait de ce monde pour en donner à voir autre chose. Et c'est ce que je fais, c'est ce qu'il m'a transmis. Et donc, prendre cette liberté de voir autrement le monde et de le donner à voir autrement, c'est une grande force. Et ça, c'est ce qui nous rend humains, de toute manière, l'art. Le désir qu'on a d'en faire et le désir qu'on a d'en voir, et le désir qu'on a d'être ému et de croire, d'ouvrir un livre et de croire et d'y croire et de faire ce voyage, de voir un tableau et d'entrer dans le tableau et de croire à cette réalité-là.
Et de vouloir ce plaisir transmettre.
Et de vouloir transmettre. Mmh. Et ça, c'est transfiguration du monde qui nous, depuis toujours, hein, depuis les grottes préhistoriques, hein, jusqu'à tout ce qui nous entoure tout le temps, jusqu'à photographie, au film, à tout ce qui. Cette transfiguration du monde-là, ça, c'est la grande liberté. De le faire. Et de le faire, parce que c'est quand même ça. C'est justement de mettre les mains dans le cambouis.
Vous pensez qu'entre Ernesto
oui.
et Félix, quel aurait été leur sujet de conversation ?
Je ne sais pas. Alors moi, j'ai choisi un moment complètement indéfini, un moment peut-être de leurs esprits, de ce qui, où ils peuvent parler vraiment à bâton rompu de tout, dans une très 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 grande liberté, là aussi, de ton. Une liberté qui vient faire fi de l'orgueil, des vanités, de ce qu'on pourrait faire croire, de ce que l'on voudrait être. Je pense que c'était deux hommes virils, mais à la fois très sensibles, donc aussi très, 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 très connectés à leur féminité, je pense. Il y avait quelque chose d'assez complet dans ce regard porté sur la vie.
D'ailleurs, vous faites parler Hemingway et il parle de Martha, bizarrement. Mmh. Or, Martha, ce n'était pas sa... Il a eu quatre épouses.
C'était sa troisième femme. Martha Gerhorn, elle était avec lui à Madrid.
Oui, c'était une femme forte. Je crois que c'était la première correspondante de guerre,
exactement.
Il me semble.
Elle était beaucoup plus jeune que lui. Elle n'avait pas froid du tout aux yeux. Et c'est une femme très, très, très beau personnage. Très, très belle femme, très beau personnage de roman. Donc, évidemment, moi, elle ne fait que traverser le roman brièvement. Mais c'est une femme très, 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 très charismatique parce qu'elle est devenue reporter de guerre, très jeune. Et en disant ça, en disant « Moi, je suis une femme, donc je vais raconter la guerre autrement parce que grâce aux autres femmes, je vais pouvoir rentrer dans les maisons. » Et c'est ce qu'elle a toujours fait.
Oui.
Or, quand on est homme...
Notre regard.
C'est un autre regard. On n'est pas dans la guerre, on est dans l'intérieur de la guerre.
Oui, oui. Oui, alors il parle de la guerre, bien sûr. Il parle de leurs œuvres communes. Mmh. Enfin, communes, non, leurs œuvres.
Oui.
Et puis, bon, c'est destiné parallèle. Et puis, sur la mort que l'on se donne, et là, Félix ne comprend pas. Et justement, bon, c'est la question qui s'est posée par rapport à
bien
son
sûr.
Dernier fils, parce que Ernest, lui, explique.
Hein. Oui.
Bon.
Oui, ben j'ai imaginé ça, que Ernest, de toute manière, allait faire ce geste sur lui-même, de sauter la vie, et qu'il allait expliquer à Félix pourquoi, qu'il y a un moment où on n'a plus d'autre choix.
Alors, vous dites, je crois que vous ne croyez pas à une vie après la mort, mais le dernier chapitre, très beau chapitre, qui reprend tous les personnages qui sont morts, les personnages de l'entourage de Félix, c'est dans une scène magnifique. Vous savez, j'ai pensé à une pièce de l'Argentin Alfredo Arias que j'ai vue. Il s'agit d'une famille d'artistes toujours aux confins de l'espoir et de la misère, mais dans le jeu théâtral, l'art, vivant pour l'art, qui vit intensément cet amour du théâtre et en finale se retrouve ruiné. Et tous se retrouvent en chantant dans une sorte d'au-delà qui les mène vers une sorte de paradis. Et vos dernières pages m'ont fait penser à cela.
Oui, c'est le paradis, vous avez raison.
Ouais.
C'est le paradis que je mets en écho avec l'exergue de Dante, qui est aussi issue de son paradis, la petite phrase au début du texte. Oui, pour moi, alors, mes personnages m'ont sauvée, c'est-à-dire à la fin du texte, Je ne savais pas très bien comment j'allais m'en sortir. Et j'ai eu cette vision. Je me suis dit, mais en fait, mes personnages, tous ceux qui ont traversé le roman vont prendre le pouvoir, ils sont tous là. Et c'est eux qui vont cheminer vers ce banc où sont assis Ernesto et Félix.
Voilà.
Et c'est, bah oui, c'est le paradis. Alors, j'espère avoir une très bonne surprise au moment où je meurs.
Voilà. Je vous le souhaite.
Oui.
Alors, un grand merci, Léonore Daricando, pour cet entretien. Je rappelle à nos auditeurs qu'il s'agit d'un ouvrage intitulé Manifesto, paru aux éditions de Sabine Weispieser.
Très bien,
voilà.
Weispieser.
Merci, au revoir.
Merci à vous.